Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. S'ouvrir sur le monde.
Vivre les différences.
Voir.
Sentir.
Toucher.
Entendre.
Regarde ailleurs, l'émission radio.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Tanguy est né à Paris en 1976. Dès l'enfance, il cherche des opportunités d'évasion à travers la découverte de la nature. Ayant reçu de sa famille paternelle le goût du voyage et un fort goût de l'aventure, il s'oriente vers la recherche d'informations et devient documentaliste. Voyageur sans peur, Tanguy a publié un livre pour partager son incroyable périple au travers de l'Inde. Il nous raconte la remontée du Gange qu'il a effectuée à pied, attiré par l'aspect mystique du fleuve. Au total, 2600 km de marche et de nombreuses rencontres qui lui ont offert un accès plus direct à la compréhension du soi. Là, on est sur le festival du Grand Bivouac, donc c'est un endroit parfait pour pouvoir rencontrer de chouettes gens avec de chouettes expériences. Et j'ai en face de moi Tanguy, donc Tanguy qui a publié un bouquin, L'âme du Gange, aux éditions Transboréal. Donc ce qu'on va faire, c'est simplement se rencontrer. Qui est Tanguy? Comment est-ce que tu te définis?
Ah bah écoutez, quelqu'un qui aime beaucoup la vie déjà, les voyages, les rencontres, faire de nouvelles découvertes.
Bon, t'as dit le mot magique, le mot voyage. Parle-moi un peu de ton histoire avec le voyage. Quel a été le premier voyage?
Alors j'ai eu la chance de voyager un peu avec ma famille, en effet, des voyages assez classiques. Le grand déclencheur, ça a été... Après 10 ans d'expérience de travail comme documentaliste, il y a un jour où j'en ai eu un peu assez de travailler sur des bases de données, par exemple. Et j'ai décidé de donner ma démission et de partir à Istanbul à vélo. Donc j'ai traversé l'Europe pendant 2 mois, en passant par Prague. Et ça a été vraiment une expérience qui m'a changé. Avant tout parce que j'ai éprouvé une grande liberté, un très grand sentiment de liberté. J'ai éprouvé aussi qu'il n'y avait pas de frontières, puisqu'on me disait à chaque fois, par exemple, quand j'arrivais dans un pays, souvent on me disait « Attention, le pays suivant, il est dangereux, faut pas y aller ». C'était assez drôle. Donc cette impression, oui, que les frontières sont surtout celles qu'on se met dans la tête. Après, c'était sauvage, c'était en hiver, donc il y avait eu quand même des difficultés par rapport au climat. Et ça fait grandir, ça fait progresser, une confrontation par rapport à la nature. En plus, la beauté de la nature, j'ai traversé les Carpates, puis les Balkans. Les Carpates, c'est des montagnes magnifiques, très boisées, où il n'y a absolument personne. C'est la plus grande réserve d'ours d'Europe. Puis le plaisir d'arriver à accomplir... une expérience au bout de soi-même, après 4000 km, qui était assez fatigant, ça procure une joie immense.
Quel a été l'élément déclencheur? Pourquoi tu t'es lancé dans ce périple? Et seul en plus, si je l'entends bien.
De vélo, là? Parce qu'il est vrai que je lisais des récits d'aventure. J'ai beaucoup lu, j'ai été très influencé par Sylvain Tesson. Et je lisais des choses comme ça, je me disais que c'était génial. Alors moi, je faisais des marches, mais des marches plus classiques, de randonnée. J'ai pas mal randonné en France. Il y a le Tour du Mont Blanc qui est très bien, les Pyrénées, etc. Enfin, j'aime bien la montagne. J'avais fait une marche dans le désert aussi. On avait marché 6 jours avec 2 amis dans le Jebel Saro, sans rien manger. Une bonne expérience. Mais c'était sur des périodes courtes. Et on va dire que la réunion d'une lassitude par rapport au travail et des récits que je lisais me donnait envie effectivement de partir pendant plus longtemps et de commencer à faire une aventure plus dense.
Et quand tu rentres, tu fais quoi? Donc tu reprends ton boulot de documentaliste?
Oui, alors là c'était dans une société d'internet, c'était particulièrement pénible donc, puisque c'était avec de l'internet, bon, y a des bases de données d'informations qui sont considérables. Avant j'avais fait de la veille, j'avais travaillé au Figaro, c'était un petit peu plus sympa. Et puis après j'ai fait d'autres travaux et puis j'ai surtout préparé ce voyage en Inde, parce que ça m'a donné envie de faire un plus long voyage, cette fois de 6 mois, ouais.
Et donc là, avec l'envie d'en rapporter quelque chose, donc le bouquin qui est posé là sur la table devant nous.
Oui, parce que j'écrivais un petit peu pour moi, et puis j'aimais ça. Alors j'avais écrit des nouvelles, des petites choses, mais bon, pas extraordinaires. Il faut avouer que je ne trouvais pas un vrai sujet. L'intérêt dans un voyage, c'est que voilà, le sujet, il est là. Après, il faut arriver quand même à le travailler, enfin, c'est pas tout, il ne suffit pas de faire un voyage. Mais quand même, quand on a vécu une aventure, on a le fil directeur de l'histoire, ce qui est déjà beaucoup.
Et là, l'Inde, tu l'as choisi pour le sujet ou comment est-ce que tu en es venu à cette destination?
Bien, j'avais déjà fait un premier voyage en Inde du Sud. Ça m'avait beaucoup marqué. J'ai été assez impressionné par l'énergie, puis par la sensualité aussi du pays. Je suis quelqu'un d'assez religieux, je m'intéresse à ces choses. Et il n'y a pas cette séparation, comme chez nous, entre le laïc, la vie quotidienne et le religieux. On voit dans les rues des petits temples, des gens qui font leur petite puja, leur petite prière, etc. En même temps, ils n'embêtent personne. Et puis, puis c'est avec les fleurs, avec le feu, l'élément naturel, l'eau, etc. Il y a quelque chose d'assez sensuel et assez beau. Ensuite, je me suis beaucoup intéressé à la culture. Ils ont une richesse culturelle considérable, en particulier littéraire. Et ça m'a passionné parce que c'est à la fois un aspect philosophique de réflexion sur la vie, mais souvent exprimé de façon poétique. Je suis rentré là-dedans assez facilement. Ça m'a fait réfléchir et puis c'était une raison supplémentaire d'aller sur les bords du Gange parce que je savais d'intuition, comme tout le monde d'ailleurs, que le Gange, il y a un aspect religieux, que c'est voilà, un fleuve sacré. Cette histoire de fleuve sacré m'interpellait aussi parce que j'y réponds dans le livre, mais je me demandais comment on pouvait allier cette appréhension d'un élément sacré avec le développement industriel parce que c'est une région où il n'y a pas partout. En fait, moi, quand j'ai traversé, j'étais 90% du temps dans la nature, mais c'est vrai quand c'est industrialisé, c'est très industrialisé, comme à Calcutta par exemple, mais pas seulement, il y a Kanpur, il y a d'autres endroits. Et puis il y a des barrages, ils construisent des barrages sur le Gange. Et comment les Indiens arrivaient à allier ça ? Alors la réponse est un petit peu complexe, mais c'est quelque chose qui m'intéressait.
Donc c'était pas simplement un roman que tu es parti écrire, il y avait aussi une étude sur le terrain, sur des sujets plus d'actualité et plus culturels.
Ah oui, tout à fait, oui. J'avais vraiment le désir de comprendre l'hindouisme parce que j'avais bien remarqué qu'il est très mal connu en Occident, surtout l'hindouisme, on a beaucoup d'a priori. Pour tout le monde, voilà, c'est un polythéisme, et bon, c'est en partie, on peut le prendre comme ça. Mais en fait, quand on creuse, il y a un dieu éternel, il y a une entité éternelle absolue qui s'appelle le Brahman, et tous les autres dieux découlent de ça. Donc c'est plus complexe, c'est un énothéisme, c'est-à-dire qu'une force primordiale qui se décline en différents dieux. Mais il y a une origine, il y a quelque chose.
Est-ce que le sujet est connu par les Indiens eux-mêmes ? Est-ce qu'on peut facilement parler de l'hindouisme ? Est-ce qu'ils connaissent l'origine des rites ou c'est simplement un rituel qu'on applique machinalement de génération en génération ?
Ben c'est très varié, je dirais que ça dépend de la culture, de l'éducation des gens, c'est extrêmement varié. Il y a effectivement beaucoup qui le pratiquent par habitude et qui ne connaissent pas et qui n'ont pas le désir d'aller chercher. C'est comme d'ailleurs pour l'aspect religieux, chacun choisit son dieu. C'est assez étonnant dans cette région, parce qu'il y a un aspect choix est très individualisé en fait. Donc la plupart des gens de la vie quotidienne, on va dire, ne connaissent pas tant que ça les textes religieux. Donc ils ont leur dieu, ce dieu ils le connaissent bien, ils suivent la voie qui est la leur, ils savent les rites qui correspondent, ils se renseignent avec les brahmanes, etc. Ils le font, mais ils n'ont pas forcément... une vision d'ensemble de ce qui existe en Inde et même de ce qu'on dit, par exemple, du Brahman dans les Védas, les Upanishads, etc.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs, l'émission radio.
À travers ton regard, je me découvre.
Regarde ailleurs sur le chemin des différences.
Toi, tu es parti en Inde. On va parler un peu de l'itinéraire. Je reprends le titre du bouquin, L'âme du Gange, par Tanvi Gollier. Donc, parle-moi de ton itinéraire. Comment est-ce que tu l'as choisi? Comment est-ce qu'on planifie un voyage de plusieurs mois à pied le long du Gange?
Alors le trajet était, on peut dire, simple, vu qu'il suffisait en gros de suivre un fleuve, qui est assez voyant parce qu'au Bengale il fait 7 km de large. Néanmoins, quand je suis parti, j'ai effectivement pensé de façon très logique partir de la source pour arriver au delta. Et il se trouve qu'en prenant contact avec des relations en Inde qu'on m'a données, on m'a conseillé de le faire dans l'autre sens, puisque les hindous font dans la dernière partie qui mène aux sources le chemin dans le sens inverse, à cause de l'aspect symbolique de la source qui est l'origine. Ils remontent vers l'origine et il y a un aspect comme ça religieux.
Donc l'idée c'était d'aller dans leur sens pour pouvoir aussi partager des moments avec eux, marcher avec eux ?
Non, mais d'abord pour le faire à l'indienne, quoi. Moi quand je vais à un pays, j'essaye de comprendre le pays. Donc effectivement, quand on m'a dit qu'ils le faisaient comme ça, je me suis dit je vais le faire aussi comme ça. Il n'y a pas de raison, il doit y avoir une logique, quoi. Il doit y avoir quelque chose qui a du sens, qui a une raison d'être. Ensuite, en organisant plus précisément mon voyage, je me suis aperçu que de toute façon, ça aurait été difficile de le faire dans l'autre sens, puisqu'il me fallait être au mois de janvier à la Kumbh Mela d'Allahabad, donc à la confluence des deux grands fleuves sacrés, le Gange et la Yamuna, et donc partir en hiver, Et partir en hiver de l'Himalaya, c'est quand même très difficile. Tandis que là, je suis parti en hiver du Bengale, où il fait assez chaud encore au mois de novembre, très chaud même. Et puis, je suis remonté au printemps dans la région des sources.
Tu dis qu'il fallait être à la Cumbamela au mois de janvier. Ça, c'est un objectif que tu t'es fixé sur ton voyage ?
Ben, en fait, c'était une des causes du voyage. C'est que j'avais vu beaucoup de photos de tous ces sadhus. C'est très exotique. Bon, les plus exotiques étant les Nagababa, ce qui veut dire hommes nus, les hommes cendrés qui sont des Shivaïtes et qui sont nus, recouverts de cendres, pour symboliser l'impermanence, voire la mort. Enfin, c'est très exotique, ces photos, et c'est frappant. J'avais envie de voir ça, je savais que c'était le plus grand événement qui avait lieu tous les 12 ans. Donc ça a lieu au mois de janvier-février. Et comme la région des sources du Gange sont ouvertes qu'à partir du mois de mai, c'était compliqué d'ailleurs parce qu'il fallait que je parte en même temps assez tôt pour arriver à la Cumbamela d'Allahabad, mais pas trop tôt pour pas arriver trop tôt aux sources. Voilà. Mais en même temps, en Inde, il y a des visas de 6 mois, ce qui est très pratique.
Alors on a parlé de termes de Cumbamela, de sadhu, on va quand même les définir pour celui qui écoute cette émission radio. Donc qu'est-ce que c'est que la Cumbamela ?
Un Cumbamela, c'est moins poétique quand on le traduit en français, ça veut dire fête de la cruche. Alors pour les puristes, je vais expliquer que Kumba c'est en sanskrit et on dit souvent Kumb. En fait Kumb c'est de l'hindi, il y a le A qui tombe. Bon, enfin moi j'aime bien la formulation sanskrite. Donc en fait ça part d'un mythe. À l'origine des temps, il y avait les Devas et les Asuras, les bons dieux et les démons, qui n'étaient pas encore immortels et qui se battaient dans le ciel pour essayer de récupérer le nectar d'immortalité. Et au moment d'une de ces luttes, il y a 4 gouttes donc, d'Amrita, de nectar, qui sont tombées à 4 endroits différents de l'Inde. Et depuis, lors de configurations astrologiques particulières, puisque les hindous sont très portés vers l'astrologie, les eaux du Gange se transforment en ce nectar. Donc ils organisent de longues fêtes avec, au cours de ces fêtes, des jours particuliers où les eaux sont particulièrement pures et le jour le plus pur étant le grand bain qui avait lieu le 10 février 2013. Et là, il y a toute une organisation pour savoir qui va rentrer dans le fleuve le premier, des marques de préséance. Généralement, ce sont les Shivaïtes parce que c'est une ancienne secte guerrière et ils sont, on va dire, les plus vindicatifs et les plus... On leur laisse cette préséance. C'est une journée de folie. Hein. Le 10 février 2013, il y avait 30 millions de personnes sur les rives du Gange. Donc à 3h30 du matin, je suis sorti dans les rues. Il y avait une foule considérable. Mais arrivé à l'approche du Sangam, ce qu'on appelle le Sangam, la confluence, donc c'est des rives immenses. Il y a 2 fleuves qui s'unissent. Donc il y a pas mal de rives. Là, on est compressé complètement. On ne peut plus du tout diriger où on veut aller. On suit une vague, quoi. On est emporté par la vague. Et il ne faut surtout pas tomber, parce que si on tombe, personne ne peut s'arrêter, donc on se fait écraser. Donc je me suis fait emporter par la vague, jusqu'à un moment où j'ai réussi, en donnant des coudes, à m'approcher d'un camp de Nagababa qui était en train de se préparer. Il y avait la police. J'ai escaladé les barrières, et comme j'étais un occidental, on ne m'a pas embêté. Et puis après, je suis reparti, je suis revenu plus tard, parce que de toute façon, les rives étaient inaccessibles.
On parlait aussi de sadhus, donc dans une Cumbamela, il n'y a pas que les sadhus. Les sadhus qui sont une branche particulière de l'hindouisme, il y a aussi tous les pèlerins qui viennent. Donc peut-être différencier un peu le public et la population qu'on va rencontrer sur un rassemblement, sur une Cumbamela.
Alors il faut imaginer donc un espace avec des rives qui font 1 km, 1,5 km, et donc il y en a pas mal puisqu'il y a 2 fleuves, et des tentes à perte de vue. Et alors dans ces tentes, on trouve soit des ordres religieux, c'est-à-dire qui ressemblent, on va dire, assez aux ordres qu'on connaît ici. Hein. Ce sont des moines et ils ont chacun leur spécialité. Et puis il y a donc ces sadhus. Alors les sadhus, ça vient de la racine sanscrite sad, qui veut dire accomplir. Donc ce sont des gens qui ont une éducation auprès d'un maître spirituel. Et une fois que c'était fait, ils partent sur les routes. Ce sont des moines errants. Qui se promènent et qui vont à ces grands rassemblements ou enseigner dans des villes, etc. Ensuite, on trouve des yogis, on trouve les Shivaïtes, les Vishnouites, qui ont chacun leur particulier, voire des Shakta, il y en a beaucoup moins, mais c'est la troisième grande branche qui est liée au dieu Brahma, donc les 3 grands dieux, comme tout le monde sait, Shiva, Vishnu, Brahma. Et de ça découle beaucoup de courants. Et une multitude de ce qu'on appelle des sectes, hein, ça n'a rien de péjoratif, hein, c'est juste des mouvements religieux. Donc quand on va dans ces tentes, on voit soit des hommes cendrés, comme je disais, soit des moines, soit des gens qui font des ascèses très particulières. Alors moi j'ai vu par exemple les Ekbabous. Les Ekbabous, c'est ceux qui ont décidé avec leur maître de faire le défi de porter le bras gauche, il me semble. Non, le bras droit, justement, parce que du coup, ça complique la chose, parce qu'ils doivent tout faire avec le bras gauche, qui est le bras impur, et qui... Bon, alors, ça complique le truc. Donc, le bras droit, ils le lèvent pendant 10 ans, hein, c'est incroyable. Alors, le bras est complètement atrophié, les ongles ont poussé démesurément, ils font 25 cm, et bon, il reste... Et en même temps, c'est paradoxal, parce que... Il y a ceux qui font des vrais assas pour des progrès personnels, spirituels, puisque c'est vrai que le but, c'est d'essayer de dépasser la matière, de maîtriser la matière, pour avoir un esprit plus fort et voilà, dans l'aspect.
Donc c'est pour ça qu'Assadou va se lancer dans une assaise, en levant le bras pendant plusieurs années, ou en restant debout sans jamais se coucher, ou en faisant le choix ou le vœu du silence. C'est vraiment pour acquérir des pouvoirs, des siddhis, je crois, hein, des pouvoirs spirituels de l'esprit.
Oui, ouais, tout à fait. Ouais, c'est gagner en force mentale, on va dire. Ouais, oui.
C'est aussi une des croyances de l'hindouisme où, en tout cas, les sadhus, a priori, vivent leur dernière incarnation sur Terre avant de se libérer du cycle des réincarnations du samsara.
C'est ça. Normalement, ils espèrent que c'est effectivement leur dernière réincarnation. Et c'est assez étonnant comme monde parce que à cette Kumbh Mela, je me souviens avoir discuté avec un Shivaïte, un Nagababa, donc en anglais, hein, et ces gens-là parlent généralement anglais. Il m'avait parlé de ses ascèses, etc. Je disais, mais alors pourquoi tu as besoin d'aller te baigner le jour du grand bain où les eaux sont pures, puisque tu as déjà atteint quelque chose par tes ascèses? Il m'a dit, mais ouais, mais je vais reprendre les mauvais karmas. En fait, les gens, ils vont se baigner dans le fleuve, ils vont confier leur mauvais karma au fleuve, et moi, je vais aller me baigner, je vais reprendre ces mauvais karmas et je vais les purifier. Et c'est très étonnant.
Ouais. Et tout ça, c'est de l'ordre de la croyance ou c'est au-delà?
Bah, c'est bien sûr de l'ordre de la croyance. Mais après, il y a des réalisations humaines. Ce que je veux dire, c'est que moi, je ne sais pas s'ils atteignent la libération. Je ne sais pas si ce sont des libérés vivants, comme on dit, etc. Je ne peux pas savoir. Par contre, ce que je vois, c'est que leurs exercices leur permettent d'acquérir une force mentale ou même une bienveillance. Alors, ça dépend, il y a un peu de tout. Mais moi, je me suis davantage entendu avec les Vishnouites parce qu'ils ont une voix moins dure. Les Shivaïtes ont une voix assez dure et parfois sont pas toujours faciles d'accès. Les Vishnouites, c'est très différent puisqu'ils sont influencés par la voix de la bhakti, de la dévotion, qui est beaucoup plus liée à l'amour. Vishnu, c'est le dieu de la préservation. Ils pensent davantage obtenir une réalisation grâce à des relations bienveillantes avec les autres, l'amour, etc.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
J'aimerais que tu crées une dimension visuelle d'une journée à la Kumbh Mela. Donc là, on va se replonger avec toi en Inde, on est au bord du Gange. Tu es dans ce camp énorme avec des tentes à perte de vue. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là en soi?
En fait, j'étais déjà un peu habitué parce que je venais de marcher 3 mois. Et j'avais vu des choses déjà. Après, j'ai eu des journées très différentes. Quand je suis arrivé le premier jour, j'ai dormi dans la tente d'un sadhu et c'était très calme. Après, j'ai trouvé un petit hôtel parce que je cherchais un petit peu du confort quand même après des... Mais néanmoins, c'est vrai que quand on se promène, bah, c'est très exotique, il y a beaucoup de choses. Alors, il y a d'abord, encore une fois, ces Shivaïtes qui sont près de leur tente, donc en position de yoga, et donc ils sont nus, recouverts de cendres. Et puis, ce qui est amusant, c'est qu'on voit les Indiens venir leur parler et apporter beaucoup d'importance à ce qu'ils disent. Il y a en Inde, en plus, cette croyance que être au contact d'une personne spirituelle apporte quelque chose. Après, il y a des attractions, bah, je sais pas, il y a des acrobates, il y a des éléphants, il y a des animaux. Ces yogis, moi j'ai vu des yogis accrochés dans des branches d'arbres, la tête en bas, ou recroquevillés dans la branche, ou je sais pas, il y a plein de trucs.
Il y a ceux qui se font enterrer vivants aussi, avec la tête qui dépasse.
J'ai pas vu ça. Par contre, ce que j'ai vu, c'est un yogi, on va dire, qui tirait une voiture avec son sexe. Alors, c'est assez particulier, ça. Les Indiens disaient Shiva Kijay, etc. C'était la victoire à Shiva. Encore une fois, c'était la victoire de l'esprit sur la matière. Et il y avait une foule autour de lui et qui criait victoire, victoire. Donc, il y a une forme de spectacle là-dedans. Moi, je trouvais ça amusant, intriguant. Après, ce n'est pas ce qui m'a le plus intéressé en Inde. À cette Kumbh Mela, ce qui m'a beaucoup plus intéressé, c'est une discussion avec un brahman qui m'expliquait sa journée, ses rites. Le rite du Samdhya, par exemple, qui a lieu le matin et le soir. Un rite en 15 étapes très ritualisé au bord du fleuve. Quand le soleil se lève, il y a des mantras, des purifications, etc. Voilà, c'est plutôt ça qui m'a marqué, bien que c'est un ensemble. Effectivement, voir un type tirer une voiture avec son sexe, on ne voit pas ça tous les jours.
Alors les sadhus sont ceux qui ont fait le choix de renoncer volontairement à une vie matérielle pour atteindre cet état d'éveil, le satori. L'Inde est un pays très pauvre, on voit aussi de mendiants et de clochards, de vagabonds. Quel est le lien entre les deux? Est-ce que des vagabonds ne tentent pas de devenir sadhus, donc de passer d'un statut de pauvre à quelqu'un qui est vénéré par le peuple? Et quelle est la perception aujourd'hui des sadhus en Inde, dans un pays qui est en train de se développer d'une manière exponentielle?
Ça, je trouve ça très intéressant, parce que ce qui m'a, entre autres choses, plu, c'est vrai, quand je marchais, je ne rencontrais pas tous les jours, mais j'en rencontrais régulièrement des sadhus qui étaient seuls et qui partaient sur les routes. Et en effet, il y en a un paquet, il y en a qui ont choisi de faire ça parce que ils savent qu'en faisant ça, ils vont obtenir une certaine reconnaissance sociale. Et moi, j'ai trouvé ça très intéressant parce que ça donne un respect, un statut à des gens qui, chez nous, sont complètement déconsidérés par les jeunes des villes aujourd'hui à Delhi ou à Mumbai. Je ne suis pas sûr que ça les intéresse, mais peut-être ça fait partie d'un peu du passé, j'en sais rien. Mais en général, c'est quelque chose qui perdure énormément. Moi, j'ai vu dans ces rassemblements toujours des Indiens avec qui j'ai discuté, quoi, parfois des positions sociales importantes, chef d'entreprise ou dans l'administration, ou j'en sais rien, et qui venaient avec beaucoup de respect parler à ces hommes. Donc effectivement, à la fois l'Inde se développe de façon exponentielle dans certains endroits et adopte en partie les modes de vie occidentaux. Par contre, cette culture-là religieuse, vu que l'Inde est très religieuse, je ne pense pas que ça disparaîtra, et je pense qu'il y aura toujours un respect de la société indienne qui connaît quand même sa culture, qui connaît ses textes, et qui est quand même influencé. Enfin, on les apprend toujours à l'école, tout ça. Enfin, il y a, pour ces sadhus, ces maîtres spirituels, ça ne disparaîtrait pas, non?
Ce qui est intéressant du point de vue occidental, c'est que donc un sadhu vit sans argent, hein, il vit complètement de ce qu'on lui donne, il accepte ce que les pèlerins ou ce que les habitants lui donnent pour se nourrir, donc on peut vivre sans rien et sans argent.
Ah, je confirme, alors moi je ne suis pas un sadhu, mais j'ai vécu sans rien et sans argent, j'ai fait des journées à 0 € en Inde. Donc effectivement, je marchais, il me restait parfois un petit peu de nourriture que j'avais acheté quelques jours avant, et puis on m'en offrait parfois, et puis quand on marche, on consomme moins, alors que je fais un effort physique plus grand, mais je mangeais un petit peu le matin et le soir, mais très peu pendant la journée. Le corps n'a pas besoin de grand-chose, en fait, finalement, c'est quand on mange parce qu'on s'ennuie et que c'est un plaisir, et que, on s'ennuie. Et puis, donc c'est possible, et puis pour moi, un occidental, l'Inde est vraiment très peu cher. Pour eux, en fait, on leur offre beaucoup. Encore une fois, les gens les respectent. Donc les sadhus vont dans les marchés, et dans le marché, on leur donne. Et après, ils n'ont rien, alors ils dorment dehors, mais ils ne se baladent avec rien. Enfin, ils ont un petit sac, ils ont une petite besace éventuellement avec...
Un téléphone portable.
Ah, parfois un téléphone portable, t'as raison, ça c'est vrai. Oui, oui.
C'est pratique hein, pour communiquer entre eux, pour se retrouver.
Oui, en effet. Mais après, je ne connais pas forcément leur vie complètement non plus. Hein, mais...
Tu l'as un peu expérimenté quand même, en remontant le Gange à pied tout seul pendant plusieurs mois, avec ton sac à dos, tu étais pas loin de l'ascétisme.
Ouais, mais je passais relativement rapidement. Bon, et j'étais dans la progression, j'aime bien ça d'ailleurs, d'être dans la dynamique, la progression, c'est-à-dire que j'ai un projet, un but, en même temps je passe du temps à certains endroits, mais je ne suis pas assez des mois dans un ashram avec un maître, essayer de comprendre, etc. Donc on ne peut pas dire que j'ai creusé la question.
Quelle était la place de l'écriture pendant ton voyage?
Eh bien, évidemment, j'écrivais tous les jours. Alors, j'ai adopté un mode, je me suis posé, parce que j'avais déjà écrit dans d'autres voyages. Finalement, j'en viens à écrire en mode assez télégraphique. Enfin, je note juste les idées pour ne pas les oublier, mais je n'essaye pas de les écrire bien. Je les note simplement, parce que je sais qu'il y a un tel travail d'écriture après, de toute façon, que ça sert à rien de trop me casser la tête sur le moment, parce que les trucs, je vais les écrire 100 fois. Enfin, quand je dis 100 fois, c'est au moins. Bon, j'ai adopté ce mode-là. Par contre, c'est indispensable d'écrire. Et voilà, ça prend un an et demi d'écriture. On ne se souvient pas de tout. On est obligé de reprendre ses notes, ne serait-ce pour les noms de lieux, les noms de gens, les noms indiens. Moi, j'avais du mal à retenir les noms indiens qui sont compliqués. Donc, si je ne les avais pas notés, j'aurais aucun nom indien dans mon livre. Ça serait embêtant. J'aurais dit, j'ai rencontré telle personne, mais je ne sais pas comment il s'appelle. Donc, ouais.
Qu'est-ce que le lecteur va retrouver dans ton bouquin, donc L'âme du Gange, hein, je le répète, publié aux éditions Transboréales? Qu'est-ce qu'on va y vivre avec toi en feuilletant les pages de ton livre?
D'abord, une expérience de marche et de vie dans la nature. J'essaye quand même pas mal, parce que c'est un de mes grands moteurs, d'exprimer mes émotions par rapport à la nature, la flore, la faune, et puis ce Gange qui était assez immense par endroits. Ensuite, les grandes villes des bords du Gange, Calcutta, Bénarès, Haridwar, l'accueil indien qui a été extraordinaire. On m'a beaucoup accueilli, une dizaine de fois, des gens sont venus vers moi en me disant « s'il vous plaît, venez dormir chez moi ». Et j'ai beaucoup dormi dans les familles. Puis des anecdotes, j'ai eu plein d'anecdotes, il m'est arrivé pas mal de choses. Enfin, il y a eu 3 agressions, petites agressions, d'hommes seuls, mais quand même. Et puis alors, ça je dirais, c'est une moitié du bouquin. Et l'autre moitié, c'est mon intérêt pour le Gange, pour ses rites. J'essaie d'expliquer et de mettre en relation avec les textes de manière assez simple et rapide. Hein. Quelles sont les racines des ablutions, des offrandes, de ce désir d'obtenir la libération, des crémations, voire des mariages, puisque je suis allé à des mariages. Et puis ma compréhension de l'hindouisme, j'ai essayé en fait de présenter les choses en ayant conscience de la difficulté et du parcours qu'il avait fallu pour moi pour les comprendre.
Et comment est-ce qu'on garde le rythme? Comment est-ce qu'on garde la motivation? Est-ce qu'il n'y a pas des moments où on se dit « je suis fatigué là, j'en ai marre, qu'est-ce que je fous là? Pourquoi est-ce que je suis en train de marcher alors que je pourrais être tranquillement chez moi ?» Pourquoi on continue tous les jours à avancer et à atteindre cet objectif qui était d'arriver jusqu'aux sources du Gange?
Parfois j'ai eu des difficultés, je ne les cache pas d'ailleurs, je les raconte. Alors dans un livre, on ne peut pas passer son temps à faire ça, sinon c'est pénible. Mais c'est vrai que c'est fatigant et parfois je le raconte en essayant de mettre ça en regard avec d'autres personnes, etc. Pour que ça soit quelque chose d'intéressant à lire. Mais ce qui fait progresser, d'abord c'est la force du projet, d'avoir quelque chose qui motive vraiment. Moi j'étais très motivé par l'Himalaya, qui était pour moi assez mythique. Le fait de découvrir l'origine du Gange. Je pense qu'il n'y a pas d'autre moyen qu'un fleuve pour arpenter complètement un élément naturel. Je n'ai pas encore trouvé autre chose qu'un fleuve où on peut se dire, je suis parti du début, je suis allé jusqu'à la fin et j'ai arpenté le fleuve en totalité, alors sur l'une des rives, parce que on peut faire l'autre si ça vous amuse. Mais effectivement, il y a eu 2 endroits, alors au Bihar en particulier, où la population avait des relations avec moi un petit peu plus tendues, on va dire. Et puis, une deuxième fois à Allahabad, où j'ai été malade. Et puis là, il y a des amis, des emails d'amis. Et puis, cette rencontre avec ce brahman aussi, qui m'a motivé. Il arrive des choses. Il y a toujours sur le chemin des gens qui vont vous redonner le goût de continuer.
Comment tu as géré la maladie ?
C'était très simple, je suis resté dans mon lit parce que je ne pouvais pas bouger. En fait, j'ai subi la pollution de l'air. Il y avait une pollution de l'air considérable à Allahabad. Et au bout d'une semaine, je ne sais plus, je me suis mis à tousser considérablement. Ça m'a épuisé et je suis resté une petite semaine dans mon lit. Et puis c'est passé et j'ai repris la route.
Donc là, tu avais quand même une chambre. Tu avais quand même des moments où tu pouvais faire un break et te retrouver... dans des endroits un peu plus confortables.
Quand j'étais en ville, j'étais à l'hôtel. Alors, il faut voir les hôtels. Hein. C'est pas toujours là, c'était une chambre à 2,50 €. Mais qui finalement me convenait bien parce que c'était petit et éloigné. Il n'y avait pas de bruit. Puis je dormais chez les gens aussi. Mais chez les gens, en fait, c'est paradoxal parce que c'est à la fois très sympathique. On passe une bonne soirée, on rencontre des gens. Mais après 30, 35, 40 km de marche, on est assez fatigué. Et en fait, eux, au contraire, ils ont envie de passer une bonne soirée avec vous. Donc ça dure. On se dira, oh là là, j'aimerais bien aller me coucher. Mais on peut pas, déjà, ils vous invitent, ils sont sympas, on peut pas leur dire, eh oh les gars, si on se couchait. Et puis, je me souviens d'une fois, alors c'était marrant, c'était près d'Haridwar, c'était juste avant d'arriver d'Haridwar, j'étais sur les rives, et les rives du Gange sont parfois extrêmement difficiles. Et je pensais dormir dehors, et puis il y avait des tas de moustiques, et puis j'ai commencé à voir des hyènes, et puis j'en avais marre. Alors j'ai vu, il faisait nuit. Et j'ai vu des lumières d'un village, j'y suis allé. C'était assez marrant parce que j'arrive dans le village, les gens ils hallucinent parce que c'est vraiment... Il n'y avait pas de route, hein, c'est des chemins de terre, hein. Ils se demandent ce que je fous là. On m'offre du thé et tout. Il y a déjà des premières personnes qui m'invitent chez eux. Alors j'arrive, je m'installe. Alors, c'était extrêmement pauvre là, c'était des lits en corde et c'était bon. Mais bon, très sympa. Moi j'avais la technique, j'avais des photos de ma famille, des cartes, de mon carte de mon itinéraire, je leur montrais des choses et tout ça. Et puis au bout d'une demi-heure, il y a quelqu'un qui frappe à la porte, une jeune fille qui arrive et qui me dit comme, juste comme. Et moi je regarde les gens, puis je dis je fais quoi? Et puis personne ne dit rien, et puis elle répète le truc, et puis je sais pas, comme personne ne disait rien, et puis à la fin on me propose d'y aller, alors je la suis. Et en fait, elle m'a dit sur la route que je ne pouvais pas dormir là parce que ce n'était pas assez bien pour moi. Et donc, elle m'a emmené dans ce qui était la plus belle maison du village, en effet. Là, j'ai passé une bonne soirée. Et puis, à 12h30, je vois la police qui arrive. trois policiers bon, qui rentrent dans ma chambre et qui me demandent mes papiers, ce que je fais là, etc. Et en fait, l'information avait couru qu'il y avait un étranger dans le village et la police s'était dit « mais c'est bizarre, c'est pas normal ». Ils avaient eu envie de vérifier si j'étais pas, je ne sais quoi d'ailleurs. Mais... Donc voilà, il arrive ce genre de choses.
Tanguy, 2600 km sur les rives du Gange pour arriver jusqu'aux sources sacrées. Donc le bouquin s'appelle « L'âme du Gange », c'est publié chez Transboréal. Et un grand merci à toi d'avoir partagé avec nous ces petites brèves de ton expérience en Inde. Merci.
Regarde ailleurs, l'émission radio sur le chemin des découvertes.